sera. Gira, gira, tondo, casca, mondo, casca la terra, tutti giù batterà. Gira, gira, tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù partera. Gira, gira, tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù partera. Gira, gira, tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù partera.
Bonjour, mesdames et messieurs. On va vous faire un superbe théâtre qui va bien vous apprécier. C'est un théâtre qui vous fera pleurer ou rire. Il y a des fois où ce sera très rigolo.
Je désire entendre l'histoire que je ne connais pas. Celle d'une Italie lointaine qu'on a peur d'oublier. À travers les voix de ma maman, son frère, mon parrain, la voisine Borina et Gianni Canova, le souvenir se raconte.
Radiodiffusion nationale belge. Chers auditeurs, nous vous prions d'écouter une allocution de M. Van Acker, ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, sur le statut des mineurs. C'est un fait que depuis plusieurs décades, le nombre d'ouvriers mineurs travaillant au fond de la mine n'a cessé de diminuer. La jeunesse ouvrière abandonne le charbonnage. Elle déserte la fosse. Elle s'oriente vers d'autres professions, moins pénibles et moins dangereuses. Non seulement la mine n'attire plus les jeunes à l'époque où ils vont faire choix d'un métier, mais bien plus. Tous ceux qui y sont entrés la quittent au bout de quelques années.
Bonjour, c'est nous qui vont vous montrer un superbe petit théâtre. Ça commence.
Je suis arrivé en Belgique le 1er septembre 1951.
Je suis venu ici au mois de janvier 1947.
Moi, je suis né ici. Je suis né à Bavière, à la maternité de Bavière. Le 3 du 2 50.
On est parti en train. On est resté 3 jours sur un train.
Donc, vous voyez un gamin de 11 ans qui débarque à la gare des Guillemets avec un ami de mon père. Je fais le voyage sur une banquette en bois. J'ai gardé les lignes de la banquette dans mon dos pendant 3 mois.
On a entendu dire que la Belgique avait recruté des gens pour aller travailler dans la mine. Alors mon papa a fait la demande. Alors il est parti avant nous autres. Okay. Nous on est restés en Italie. Et lui il est venu ici pour avoir un point de chute, quoi, pour voir comment ça allait. Et il est venu habiter ici à Tilleur.
Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est dans quelques jours que nous fêterons les 63 ans de l'accord des mineurs contre du charbon. Cet accord avait été signé entre la Belgique et l'Italie le 23 juin 1946. Cette convention prévoyait que le gouvernement italien envoie quelque 50 000 travailleurs dans nos mines belges afin de pallier au manque d'effectifs de l'industrie charbonnière. Nous avons rencontré Monsieur Gianni Canova, homme de radio et de télévision d'origine italienne. Il nous parle du sujet.
Non, mais voilà, moi j'aurais juste voulu savoir, mais le contexte, exactement ce qui s'est passé, parce que c'est vrai que j'ai lu beaucoup de choses, mais que c'est jamais la même chose, parce que, est-ce que vous avez immigré, vous êtes...
Évidemment, mon père est arrivé en 46, au mois de mai, et au mois de juin, le 23 juin 46, l'Italie et la Belgique signent le fameux accord dont on parlera encore dans 2 siècles, qui est des hommes contre du charbon. L'Italie s'engageait à fournir 2000 ouvriers à la Belgique par semaine, chose impensable car il n'y avait même pas les trains pour les transporter, mais la Belgique ayant besoin de main-d'œuvre, elle a signé n'importe quoi. Et en échange, chaque ouvrier qui arrivait en Belgique, l'Italie avait droit à 200 quintaux de charbon, un quintal 600 kilos, parce que les Italiens, un peu comme les Anglais, ont leur mesure particulière. Et puis, le reste du charbon que l'Italie achetait, elle pouvait l'acheter à un prix préférentiel. America, 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 cosa sarà la st'America? America, 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 in America voglio andare.
habían dormido su nudo terreno, come le bestie que va riposar.
Il y a eu 51 trains la première année, qui transportait environ 800-900 mineurs, donc c'était pratiquement la moitié de ce que l'Italie s'était engagée à fournir. Ces mineurs arrivaient ici. Je fais une petite digression, puis vous montrer comme vous voulez. J'ai été longtemps fâché sur les Belges, parce que c'est vrai qu'on nous a foutu dans des... Ça n'a pas été le cas de mon père, je le dis tout de suite. On nous a foutu dans des camps de concentration que les Belges avaient construits pour loger les prisonniers allemands. En fait, dans la mine, il y avait les prisonniers allemands. Mais lorsque la Belgique, avec les accords de paix, s'est engagée à envoyer les Allemands chez eux, elle a dû remplacer ces prisonniers allemands par des mineurs italiens. Et elle les a logés, tout à fait naturellement, là où logeaient les prisonniers allemands. Alors, c'était des baraquements. Il y avait 24 baraquements, 24 logements par bloc. Et je suis fâché parce que les historiens racontent vraiment n'importe quoi, et pour les avoir vus et pour avoir fait des dizaines et des dizaines d'interviews d'Italiens qui ont vécu cette période, par exemple, la RAI vient de faire un film sur Marcinelle et on voit une maman qui ouvre un robinet dans son baraquement. C'est faux. Il y avait un robinet à l'extérieur pour 24 logements. Et ce sont toutes ces petites choses-là qui m'énervent de plus en plus. À mon avis, je vieillis mal. Et je suis très heureux de vous répondre parce que je voudrais vraiment qu'on replace la chose dans le contexte. Et puis, je vous dis, j'étais fâché au début, puis je me suis rendu compte que c'était stupide de ma part. Il m'arrive de faire des mea culpa, hein, parce que les Belges étaient aussi mal logés que nous. Nous étions dans un pays qui avait été bombardé et il y avait même des Belges dans les baraquements.
Au baraquement, Bruna, toi, tu habitais à Tilleur?
Non, à Saint-Nicolas.
Et nous autres à Tilleur. Tu sais bien qui, avec la famille Paché?
Oui. C'est une sonde.
Oui, voilà, eux aussi.
Non, moi, j'habitais au Bonnet.
Ah, mais au Bonnet, j'habitais aussi, moi, là. Hein.
Oui.
Mais...
T'as les baraquements du lait?
Pas quand c'était les baraquements. Je ne sais pas si tu te rappelles au Bonnet.
Il y avait des maisons.
Les maisons rouges.
Oui.
Eh bien, là, on habitait
là.
On habitait là.
Nous autres, on est partis de là. Quand on nous a donné une maison à Saint-Gilles.
Joyeux anniversaire. 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 Joyeux
Ouais, voilà, j'arrive.
Discussion avec parrain.
Ben ouais, allez, sérieusement. Et je parle comme je parle moi?
Ben oui.
Ouais, mais je veux dire... je parle à ma façon, quoi. Et toi, ça, des gens, ils vont l'entendre après?
Ouais, si tu veux bien.
Ah ouais, je m'en fous, moi, hein, ouais, bon.
Ouais.
Eh bien, voilà ma puce. Mes parents, ils viennent de Vicenza, hein, province de Vicenza. Donc, ça se trouve en Italie, dans le Veneto, hein, en Italie du Nord. Et ils se sont connus là-bas. Mon papa était dans la police à ce moment-là. Et ma maman, elle était jeune fille chez elle. Et un jour, ils se sont croisés, parce que le frère de ma maman était dans la police aussi. C'est comme ça qu'ils se sont connus. Alors, ils ont courtisé. Mon papa était demandé à la famille s'il pouvait voir ma maman et tout. Et à la fin du côté, ils se sont mariés.
Brendola, 9 luglio 49.
Ce qu'ils ont eu?
C'est le cadeau qu'ils ont eu de l'église, oui.
Une belle vie, c'est ce qu'ils ont eu?
Je pense qu'ils n'ont pas eu une vie facile, moi. Moi, je pense qu'ils ont eu une vie qui n'était vraiment pas facile. Mais je me dis qu'ils ont eu des bonnes choses quand même dans leur vie. Maintenant, ils ont eu comment est-ce que je vais dire? Je pense qu'ils ont eu des joies, mais ils ont toujours vécu dans le sacrifice. On se sacrifie pour ceci, pour cela. Je pense qu'ils ont fait beaucoup avec les peu de moyens qu'ils avaient. Et je trouve qu'ils ont fait beaucoup pour nous. Quand je dis nous, mon frère et moi, quoi.
Et des sacrifices, on a fait. Encore maintenant.
C'est vrai?
Ah oui. On n'a pas eu la vie facile, hein, comme il y en a maintenant. C'est pas vrai, Diego?
Oh oui, c'est vrai. Bruno.
Je me rappelle ta grand-mère, on était les mêmes. Parce qu'on habitait à côté.
Ouais.
Et on avait dur. Mais on était heureux.
C'est vrai?
Ah, on riait, on chantait, on dansait dans la rue.
C'est vrai?
Ah oui, des belles journées qu'on passait, malgré qu'on n'avait pas un froid.
Alors, on allait jouer, je me rappelle, chez Merlot. C'était Merlot à côté, tu te rappelles? Tina, Camélie, sa maman, qui était un peu handicapée. Pour... On allait jouer le soir au loto. Le loto, c'était des cartes, hein, avec des numéros. Et alors, ils avaient un sachet, ils remuaient le sachet. Et ils sortaient des petites billes, je vais dire, avec des numéros. Et ils criaient le numéro. Et celui qui avait le carton, il devait mettre un haricot. Un haricot. Sur le carton. Et quand ta carte était pleine, tu avais 25 centimes.
Oui,
donc 25 centimes à ce temps-là. C'était une pièce avec un trou.
Ah ouais, un trou.
Ouais.
Argenté.
Ouf, toi, c'était bien. Oui. Les soirées qu'on passait. Et alors, son papa, il jouait de la mandoline.
Ah, oui.
La mandoline est le fils de la guitare. Il jouait de la guitare. Eh bien, le soir, on allait là, on s'amusait, il chantait, il tapait. Chanter des chansons siciliennes et tout ça, c'était bien, hein?
Ouais.
Tu vois, tout ne va plus, ça maintenant.
Tu sais, quoi, quand on allait jouer au loto chez Merlot.
Ah ouais.
Hein? Le soir, on allait jouer au loto.
Les hommes jouaient aux cartes, ils buvaient une bière. Les hommes qui ne travaillaient pas. Nous autres, de ce côté.
Et après, je me rappelle, la première télévision, c'est sa maman qui l'a achetée.
Oui.
Ses parents.
Oui.
En noir et blanc, ouais, parce que toute la rue,
on allait chez elle. Toute la rue, on allait chez maman, regarder la télévision. J'avais ma fille qui avait 3-4 ans, Dalila aussi. Alors on disait, on mettait des disques. J'avais des copines, un peu plus âgées, et alors on mettait les disques et on dansait dans la rue. Et on s'amusait très bien. Et personne ne grognait. Quand il y avait quelqu'un qui était malade, on allait les voir. Moi, une fois, j'ai fait la pizza pour ta maman. Je ne sais pas si tu te rappelles. On se côtoyait. Maintenant, plus.
Il y avait plus de solidarité. Hein.
Ah oui.
Là, on était plus solidaires.
On se mettait devant la porte. Parce qu'on n'avait pas de télévision, on n'avait rien à ce temps-là. Et on s'amusait.
È una bella mattina, anche il gigetto sul castelletto per aria andò, anche il gigetto sul castelletto per aria andò.
Voilà, les Italiens. Les Italiens sont un peuple d'émigration depuis très très longtemps. Ils prenaient d'abord le piroscafo. Le piroscafo, c'est le nom qu'on donne aux bateaux en Italie. À Gênes, toutes les semaines, il y avait un bateau qui partait vers les États-Unis depuis 1800. Et mademoiselle, c'est votre région, enfin, la région d'où sont originaires vos grands-parents, la Vénétie, le Veneto. À l'époque, il y avait trois Veneto. Il y avait la Venezia Giulia, la Venezia Tridentina et la Venezia tout court. Donc, et il y a 3 millions d'Italiens issus de votre région qui vivent à l'étranger. Après, il y a 1 700 000 Siciliens, et puis toutes les autres régions. Il y a, au moment où je vous parle, plus d'Italiens dehors que dedans. Si on remonte, comme le font les sociologues, à 3 générations, il y a plus de 65 millions d'Italiens à l'étranger, et il n'y a que 57 millions en Italie. Vous voyez l'importance, l'impact culturel et surtout économique de cette émigration, de cette diaspora, comme on dit quand on parle de juifs. Et l'Italie n'a jamais voulu reconnaître cela, parce que, entre-temps, en Italie, il y a eu ce qu'on appelle le miracolo italiano, le miracle à l'italienne. En 1946, est née la Vespa. Mais oui, la Vespa, la Fiat 500, etc. Et l'Italie, peu à peu, puisqu'elle fait maintenant partie du G8, de 8 pays les plus riches du monde, elle a voulu oublier son émigration, parce qu'on... On appelle ça la fedina penale. Comment est-ce que je dirais ça en français? Sur le curriculum vitae des Italiens, il y a cette grosse tâche qu'est l'émigration. Les Italiens ont toujours été obligés de partir. pour des raisons incroyables, pour des raisons de distribution des terres, pour des raisons politiques, le fascisme. L'émigration italienne vers la Belgique a commencé surtout en 22. Pourquoi ? Parce que c'est arrivé Mussolini au pouvoir. Et les Italiens de gauche, quand j'ai ma bascule, écoutez, quoi, c'était insupportable de vivre dans un pays où on pouvait laisser le pouvoir.
Une guerre, ses conséquences, des solutions, des compromis, un accord. Des hommes, un voyage, des masses, un phénomène. L'émigration. Un peuple, une histoire. Parmi les quelques 50 000 Italiens qui quittèrent leur pays pour venir travailler dans les mines belges, se trouvait Giovanni Nicolato, mon grand-père maternel. Dans le cadre du regroupement familial, Nadia Perazzolo, ma grand-mère, le rejoint 2 ans plus tard. Toute émigration commence par un voyage. Par un long et presque interminable périple qui prend sa source dans un espoir infini pour atterrir dans une réalité insoupçonnée.
J'avais 6 ans quand je suis venue à Belgique.
Souvenir de Borina.
On est parti en train, on est resté 3 jours sur un train, on a été à Milan,
ouais.
Dans une grande... toute grande, comment est-ce qu'on appelle, les grandes pièces, là. Une toute grande pièce. Alors, le train est arrêté, là. On est resté à Milan. Longtemps, assez, 3-4 jours aussi. On nous a donné des lits, comme les soldats. Une personne avec des couvertures grises, là. Mais on était toutes groupées, hein.
Ouais.
Puis on est venu en Belgique, et en Belgique, il y avait de la neige. Beaucoup de neige qu'on n'avait jamais vue.
Ça, c'est vrai.
Et on a été habités dans les baraquements. Alors, on avait froid, on n'était pas bien, on n'était pas habitué. Puis on a été à l'école. À l'école, on n'était pas bien accueillis. On nous disait macaroni, spaghetti, retourne à ton pays.
Ah ouais.
Ça, j'ai pas oublié, ma cricaga. 60 ans que je suis en Belgique.
C'était pas facile, ça.
C'était pas facile. On dormait dans les, comme je dis, dans les baraques morts. Il y avait 2 pièces.
Ouais.
On était 2, ma soeur et moi, et mes parents. Et on dormait dans la même chambre. On avait un petit foyer, et voilà.
Et vous êtes arrivé ici, vous ne parliez pas français?
Ah non, rien du tout, vous ne comprenez rien, j'avais 6 ans. Je suis venu ici au mois de janvier 1947, et mon papa il est venu ici en 1946, pour aller travailler dans la mine.
Ouais.
Et voilà.
Et vous venez d'où en Italie?
Moi je viens de la Sicile,
de la
Cerverine.
Ouais.
Voilà.
Le voyage n'est que le début. C'est l'instant zéro où l'histoire commence. C'est l'élément fondateur qui crée la naissance d'une communauté et de son histoire. C'est l'origine ultime de mon existence. Le facteur X qui a créé la vie, la mienne, qui a fait ce que je suis. Mon être tout entier. Si on ne connaît pas le début du voyage, comment peut-on en connaître la fin? Comment peut-on comprendre cette partie de soi qui appartient à cette histoire?
À maman.
Comment vous appelez-vous?
Bella.
Comment vous appelez-vous?
Allez, à maman. À maman.
Comment vous appelez-vous?
Caroline.
Caroline comment?
Bastin.
Où habitez-vous?
À Spa.
Quelle rue?
Rue du Marché.
Numéro?
46.
Mais c'est parfait. Et où allez-vous à l'école?
À Sainte-Croix.
Et c'est très amusant l'école?
Oui.
Qui faites-vous?
Je joue au Barbie.
C'est tout?
Et j'aime pas Virginie Poupoule.
Quand nous, les enfants des enfants, avons grandi, il était déjà trop tard pour entendre l'histoire. Ce qui était une évidence dans l'enfance s'est transformé en questionnement plus tard, en une nécessité de savoir et de connaître. De remplir son corps tout entier de cette histoire que nous n'avons pas vécue, mais qui nous appartient, quoi qu'il arrive. Je n'ai pas vécu ce voyage, ni l'arrachement à ma terre. Mais j'emporte la blessure profonde et inguérissable. Est-ce que les gènes sont porteurs d'histoire et de souffrance, de joie et de blessure? Est-ce que je porte ce voyage à l'intérieur de mon ventre? Je voudrais lui donner sa voix. Ma voix,
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 ma
voix,
ma voix,
ma voix,
ma voix,
ma voix,
ma voix,
ma voix,
ma voix,
ma voix,
ma voix,
ma voix,
ma voix,
ma voix,
ma voix,
ma voix,
ma voix,
ma voix,
ma voix,
ma voix,
ma voix.
Au nom de mes grands-parents décédés, au nom de ce peuple qui est le mien, au nom de ceux et celles qui ont aussi besoin de savoir, au nom du peuple qui voyage, qui émigre, qui a quitté sa terre avec l'espoir d'un meilleur, au nom du peuple qui n'a plus de race ou d'origine particulière, un peuple au visage commun, celui d'un ailleurs, celui qui attend en serrant les dents le retour à la terre.
Maman, c'était pas le fait de se réjouir d'y aller, c'était on y va.
Donc, oui, d'accord, mais t'avais l'excitation d'y aller quand même.
Non, c'était l'usage, c'était l'habitude, on partait, on faisait le bagage, on partait, et voilà. Et puis voilà, et puis on est parti, et puis on partait chaque année, en juillet, ou parfois à Noël, une fois ou deux, on est venu à Noël, mais à Pâques, on venait, encore deux semaines. Donc moi, je veux dire, je suis venue pendant presque 10 ans. Je venais vivre 2 mois l'an ici, quoi. T'imagines?
Ouais.
Et on vivait ici. C'était pas des vacances, hein. Je vivais ici. Donc moi, j'étais coupée de tout le monde en Belgique. Donc on vivait ici.
Ouais.
Manger, on dormait, on n'allait nulle part. Moi, j'étais à Venise très tard, la première fois. Je savais même pas que Venise était tout près. Tu réalises pas tout ça, quoi.
Ouais. Et tu sentais l'excitation de Nana et Nana de rentrer?
Eux avaient hâte. Enfin, ils étaient contents de venir, d'abord pour trouver le beau temps, pour vivre autrement, et puis venir chez eux. Comme ils disaient, « Nemo casa nostra ». Tu vois? Et alors, on venait ici, « casa nostra ».
Celui qui oublie aussi, qui sait d'où il vient, où il est, mais qui ne sait pas où il finira.
Encore la semaine dernière, on m'a dit, pourquoi tu retournes par l'Italie? Encore la semaine, ouais, on m'a dit, encore la semaine dernière, une Belge. Ah ben oui, parce que je parlais avec tout ce qui se passe. Je dis, la Belgique, elle est vraiment en train de se mettre à terre, c'est vrai, hein, Diego? Ben, pourquoi tu restes ici, retourne en Italie? Je dis, tu ne vas pas me dire, je dis, retourne en Italie, parce que moi, mon pays, c'est ici. Je n'ai que 6 ans, je dis, moi, quand je suis venu en Belgique. Il y a 60 ans, je dis. Pas 60 ans, 62 ans, j'ai jeûné 68 et j'avais 6 ans. Alors qu'on ne vient pas me dire, retourne dans ton pays, qu'est-ce que j'irai faire en Sicile? On ne me connaît pas. Je suis une étrangère, plus étrangère qu'ici. Moi, c'est chez moi ici en Belgique. Qu'est-ce que je vais aller faire en Italie?
C'est ici chez vous en Belgique, mais vous êtes
italien. Je suis étrangère ici et je suis plus étrangère dans mon pays.
C'est vrai.
Dans mon village.
Ouais.
Et ça ne m'attire pas d'y aller. Hein?
Et vous y êtes retournée quand même?
J'y suis retournée quand j'avais 14 ans.
Une fois. Une seule fois.
Non. Et quand je suis mariée, j'y suis retournée 2 fois.
C'est vrai, ça?
Oui, mais je ne savais pas rester, moi, là. Hein.
Pourquoi?
Parce que je n'aimais pas. Mais je suis restée à moi, là, et j'étais contente quand je suis montée sur le train pour revenir.
Hein, enfin, voilà. On ne renie pas nos origines quand même.
Non.
Eh, bon.
Je ne renie pas mes origines, hein, loin de là.
Voilà, justement.
Mais je ne connais personne.
Ben ouais, c'est ça le malheur. Hein. Après X temps,
tu sais. Tu sais comment est-ce qu'on m'appelle? La Belgise.
Ah.
Voilà, ah ouais,
c'est vrai qu'au début, on les appelait les Américains, parce qu'ils croyaient qu'ici, tu sais, c'était l'Amérique, la Belgique,
ouais.
Hein, qu'on était bourrés d'argent, que,
ouais.
C'est vrai, hein,
ouais,
c'est
ouais.
Ce qu'ils pensent en Italie.
Et ils pensent.
Alors que ouais. Quand tu y vas, il faut dire la vérité, ils vivent bien. Là,
oui, hein. Mieux que nous.
Ils vivent bien. Hein.
Ils vivent mieux que nous. Les Belges, comme on appelle. Voilà, qu'est-ce qu'ils viennent, les Belges. Pour dire les Belges.
Ça vous fait mal un peu d'entendre ça?
Non.
Non.
Ça me ferait plus mal ici que là. Ça me fait plus mal que la femme a dit retourner en Italie.
Ouais.
Je sais bien, je viens de la Belgique.
C'est un périple qui n'a pas d'âge, une histoire qui n'a pas de fin. C'est l'universalité de l'immigration.
Mais les Italiens de l'étranger achetaient la monnaie italienne avec des devises fortes.
Ma maman avait la Rosane, ses variettes.
Si vous devez retenir une phrase, mademoiselle, c'est ça. Ça s'appelle les rimesse, les remises.
Qu'est-ce que vous faisiez avant d'être fondeur ici?
Je viens d'Italie, je suis un étranger, je viens d'Italie.
L'argent que les Italiens de l'étranger envoyaient au pays avec l'échange, constituer la troisième ressource du pays.
Ça va, je vois qui c'est.
À côté, avec Tina.
Il y avait l'agroalimentaire, le tourisme.
Joseph Merlot. Salvatore Merlot.
Et puis la troisième ressource du pays.
Buongiorno.
C'était l'argent que les émigrants envoyaient.
Carmen qui était malade.
J'ai interviewé le maire de San Valentino.
Oh oui, on a beaucoup de souvenirs. C'est parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis. Hein.
Oh, ouais, toi.
Et il me disait qu'on a pu refaire les toits des maisons grâce à l'argent que les émigrés envoyaient.
Il y avait Ninette aussi.
Un Congolais qui travaille et qui gagne bien sa vie en Belgique.
Tresca.
Avec ce qu'il renvoie, il fait vivre tout le village.
Ouais, Tresca.
Ouais.
C'est extrêmement positif, l'émigration.
Sa fille est décédée aussi.
Rosa.
Angelina,
ouais, ouais.
Est décédée.
Il y a un côté évidemment négatif parce que ne pas vivre chez soi. N'est pas vivre dans sa langue.
Oh, il y en a beaucoup qui sont partis.
Déjà ici, c'est magnifique. C'est super beau. Balade à Brendola avec maman. Première. Deuxième.
Alors ici, c'est l'Ostaria, où Nono venait jouer aux boules et boire son petit verre de vin blanc.
Troisième.
Ce que j'aime encore bien ici, c'est que les gens peuvent encore vivre de manière... Tu vois, un peu... Pas à l'ancienne, c'est pas ça, mais simplement, quoi.
Ouais.
Tu vois, il y a ces odeurs encore de... bois... Tu trouves pas, toi, que ça sent, ça?
Si.
Moi, j'aime bien ces odeurs.
Quatrième.
Donc ici, c'est Scarantello. Ici, maintenant, c'est légèrement asphalté. Mais dans le temps, c'est de la terre et des gros cailloux. Voilà, ici, ça corse parce que... Voilà. Et là, il y avait une famille. Ils avaient je ne sais combien de gosses. Et j'aimais bien le garçon. Il y avait un garçon que je trouvais beau. Voilà. Ça, c'est la maison. Là, il y avait un poulailler. Ça me paraissait grand. C'est tout petit, en fait. Sur le côté, il y avait un robinet. Il y est toujours, regarde.
Ah, ouais.
Et on allait se laver les pieds, là, quand on remontait, parce qu'ils étaient dégueulasses de terre. Quand on avait chaud, on jouait dans l'eau. On faisait caca et pipi partout, parce qu'il n'y avait pas de toilette.
Cinquième.
Bon. J'aurais bien voulu voir par les fenêtres, mais j'ose pas.
Pourquoi ?
Je sais pas. Non, c'est pas ça, c'est que je sais pas.
Pourquoi ?
J'ai peur de l'émotion, de ce que je peux ressentir. J'ai peur.
Sixième.
Bien, ça va.
D'accord. Je peux aller voir, moi ?
Oui. Tu veux que je tienne ?
Non, ça va.
Attends, je viens avec toi. Si tu y vas, je viens avec toi.
Septième.
Tu vois.
Huitième.
Tu vois l'escalier que je te disais.
Ouais.
Oh, tu vois le truc là par terre en bois, oblongue.
Ouais.
Tu sais ce que c'est ?
Non.
Una moniga.
C'est quoi ?
En fait, quand on venait qu'il faisait froid, on est déjà venu et alors on mettait une pierre réfractaire chauffée dans le poêle. Et puis alors on mettait ça dans le lit et on mettait la pierre au milieu.
Pour chauffer.
Et alors, on mettait les couvertures par-dessus, ouais. Ça chauffait. Mais alors, c'était assez humide. Tu crois que je serais allée la chercher ? T'as peur que je regarde. J'ai peur de me recevoir sur le crâne.
Tu veux que j'y aille ?
Non, sûrement pas. Ah oui.
Neuvième.
J'ose pas aller le chercher.
Je vais y aller, moi.
Mais attends, peur que je regarde. Il est fort abîmé, hein, de toute façon. Je prends sur moi.
Allez, vas-y. Tu veux que j'y aille ?
Non, tais-toi. Ne parle plus.
Dixième.
J'ai peur de l'effet papillon.
Ouais. N'y va pas.
Il y en a encore par là. Non, je prends pas le risque. Il y en a deux. Il y en a une là, une là.
Ah ouais. Pourtant, il est posé tout seul par terre. Onzième.
Donne-moi
la main.
Non.
Si jamais il y a un souci, je te tire. Donne-moi la main.
Attends.
Maman.
12e.
Maman, c'est dangereux.
Je ne saurais pas, j'ai trop peur. Quelque chose me dit que je ne dois pas y aller.
D'accord, on va pas.
Tu n'iras jamais non plus.
Non.
Treizième. Je voudrais aussi me rappeler de la terre des grands-mères, où il n'y a que la vérité qui existe, gonflée de poitrines qui n'attendent que des têtes à loger, qui font respirer votre âme, qui révèle votre être, qui vous raconte votre terre.
Moi, j'ai toujours, enfin, j'ai envie de dire, moi, je suis toujours venue. J'ai toujours eu envie d'avoir ce contact avec mes sources, comme je dis. Parce que moi, je parle de mes sources. J'ai besoin de mes sources. Parce que je sais que je suis faite de deux cultures. Et j'ai besoin de ça. Voilà. Ça me fait du bien de venir, ça me fait du bien de parler quand je viens. Et je fais partie d'ici. Mais je le vis. Je le vis dans moi, je n'ai pas besoin de jouer la nationaliste en disant que tous les autres c'est de la merde et qu'il n'y a que les Italiens qui comptent. Je joue, enfin, c'est pas ça moi. Moi, c'est comment est-ce que je vais dire ? C'est en moi. Et j'ai les deux, ça me suffit à moi-même de le savoir et de me baigner régulièrement là-dedans, et puis c'est tout.
Non.
Mais de temps en temps, toi. Certains mots, tu les sortais.
Ouais.
Et ça faisait rire Nona. Si, parce qu'elle était contente de l'entendre, quoi.
Je désire raconter mon Italie. Une enfance qu'on n'arrive pas à quitter parce qu'elle est partie trop vite. Ce qu'elle était, ce qu'elle est, ce qu'elle devient, ce qu'elle a été et sera à jamais. Une histoire personnelle, presque confidentielle, mais surtout universelle.
Si un autre avant moi t'a tenu dans ses bras, moi je veux le...
Voilà, maintenant c'est enregistré. Tu peux y aller. Mais pas trop près du micro, hein, parce que c'est pas bien.
Si, mais lève tes cheveux.
Hein?
Ah. Fabrizio. Ici, nono. Cacon de nono.
Parfois, je revois mon grand-père à l'arrêt d'un bus.
Si, cacon de nono. Ne me tournez, chica Fabrizio.
Les yeux rivés vers le sol.
Allez, viens avec nono. Nono. Oh, tu viens avec nono, Eno. Ouh. Fabrice !
Ses yeux que son âme a fui parce qu'elle ne pouvait plus supporter ce qu'ils avaient à lui offrir. Le visage fermé, souillé par la mine.
Fabrice ! Regarde nonno ! Qui est qui a fait titi là ? Allez, dis-le nonno qui a fait titi là !
Mais les mains lissées belles, malgré ce qu'elles ont eu à accomplir.
Ah, oh, tu as fait titi là dans le chapeau de nonno.
Oh. Enfin, c'est la destinée, ça, on ne peut rien faire. Tout est destiné dans la vie. Tu ne comprends pas, hein ? Si, tu as compris ? T'as Yassi ?
Ah ouais.
T'es contente ?
Ouais. Merci.
De rien. Tu enregistres encore ?
Oui, mais elle peut le faire, c'est comme
elle. Ah bon. Mais elle aime bien, hein, oui, elle entend tout ça, hein, oui. Elle aime bien d'entendre tout ça.
J'étais petite, hein.
Ouais.
Je me souviens pas bien.
Ben non, hein.
On n'a pas eu le temps de demander, quoi.
Non, non, non. Si ta grand-mère serait là, elle te raconterait comme moi.
Ouf, tu vois, si ma mère serait
là, elle te raconterait comme moi.
Dire, dire, tondo.
Carolina, ça va?
Oui, ça va.